Ça vous dérange ? Philippe Bertrand sur France Inter.
Bonjour, notre sondage du jour donne le thème et le ton de ce « ça vous dérange ? Doit-on transformer l'école primaire ?» Vous pouvez participer sur franceinter.com. À l'heure actuelle, à 767 votants, nous avons 40% de oui et 46,8% de non. 13,2% d'entre vous ne se prononcent pas, mais ils se prononcent en se prononçant pas, puisque c'est pour ça quand même qu'il faut comprendre. Et le téléphone, c'est le 01 45 24 7000. L'école a été très souvent mise en cause, elle a créé des désaccords, voire des lamentations, pire des crises, d'où, de toutes parts, des enseignants dont les missions à force de reprise en main gagnent en confusion, des parents soupçonnés de démissionner trop facilement, ou alors, à l'inverse, de s'immiscer trop complètement dans des compétences qui ne sont pas les leurs, du ministère accusant le précédent, et même des enfants prêts à dire que de cette école, là, ils n'en veulent pas. Régulièrement, l'enceinte de l'école est assiégée, ces défaillances stigmatisées. Alors, pourquoi cet acharnement? D'abord, l'école est un passage non seulement obligé, mais ça, j'enfonce une porte ouverte, mais essentiellement essentiel et déterminant. Ensuite, l'école n'est pas une entité à part, un monde en marge régi par des lois propres. L'école est simplement à l'image de la société. Elle est un acteur de celle-ci, un acteur qui se pose des questions tout à fait légitimes, à condition qu'on interroge la société dans laquelle une nouvelle école pourrait prendre place. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui en consacrant cette émission à la petite école, grande par ses vertus, mais petite par l'âge des enfants qui s'y épanouissent. C'est pourquoi nous réalisons un sondage donc sur cette question. Doit-on transformer l'école primaire avec toujours la même proportion à l'heure actuelle? Enfin, faut que je réactualise, donc j'ai un petit clic, vous allez peut-être l'entendre à l'antenne. 47% contre et 40% pour. Pour nous guider dans ce débat de société à nos côtés, Pierre Fracoviac. Pierre, bonjour.
Bonjour.
Ancien instituteur, inspecteur de l'éducation nationale dans le Schnorr. Et co-auteur avec Philippe Mérieux d'un essai « L'éducation peut-elle encore être au cœur d'un projet de société » aux éditions de l'Aube. Et Marc Lebris, Marc, bonjour.
Bonjour.
Instituteur et directeur d'école à Médréac en Ille-et-Vilaine, auteur de « Et vos enfants ne sauront ni lire ni compter, la faillite obstinée de l'école française » aux éditions Stock. Je ne vais pas vous demander d'emblée vous faire participer au sondage, simplement poser une question de départ. Apparemment légitime aussi. L'école est-elle franchement malade?
Oui, j'en suis persuadé.
Marc Lebris, oui.
Oui, j'en suis persuadé.
Elle a mal où?
Elle a mal à ses résultats. L'école a mal à ses résultats internationaux et individuels.
Pourquoi internationaux?
Sur toutes les évaluations internationales, on se rend compte que la France baisse dans des domaines où elle était avant leader, en particulier en mathématiques. Et individuellement, parce que vous avez dû vous aussi vous trouver face à cette jeune employée de boulangerie qui ne sait pas vous rendre la monnaie ou qui n'ose pas, sans une caisse enregistreuse, rajouter à la main 1,20€.
Oui, mais j'y retourne parce que son pain est bon.
Oui, voilà, moi aussi. Mais c'est à elle qu'on n'a pas rendu service.
Mais d'emblée, vous mettez l'école dans les comparaisons. Est-ce qu'il est nécessaire d'abord de parler? Est-ce que l'école est un lieu qui fabrique des résultats, et est-ce que on doit placer l'école dans un circuit de concurrence?
J'ai entendu dans l'actualité hier une remarquable femme qui vient de subir des choses terribles exprimer avec des mots d'une précision, avec une profondeur de cœur et d'esprit, des choses fantastiques. Elle a à sa disposition une façon de s'exprimer remarquable. Je ne peux pas m'empêcher de croire que cette façon de s'exprimer lui est une force. La précision de sa langue, donc la précision de sa pensée, sont bien plus qu'un simple gadget. C'est quelquefois une arête dorsale.
Pierre Fracoviac, même question. L'école est-elle malade?
Je pense que c'est injuste de faire un tel procès, de jouer du catastrophisme, de noircir les tableaux, sans essayer de prendre en compte de où elle est partie, l'école.
En tout cas, dans l'enceinte de l'école, personne n'est heureux, a priori.
C'est vrai. De où est-on parti et pourquoi l'école s'est transformée? Pour quelles raisons? Et pourquoi ceux qui ont décidé de la transformer, indépendamment d'ailleurs des étiquettes politiques, grosso modo depuis un peu plus de 30 ans, pourquoi l'ont-ils transformée? Et dans quel état elle était à cette époque-là? On ne le dit jamais. l'école à cette époque-là, élitiste, ségrégationniste, qui correspond pas du
comme
tout.
Comme vous y allez, vous cassez aussi.
Comment on ne peut pas, c'est la réalité. Le constat de la rupture par rapport aux besoins de la société en évolution, par rapport au savoir, par rapport aux sciences, la nécessité de la transformer. Rappelons que dans les années 60, trois enfants dans ma classe de CM2, dans l'école de la cité minière où j'étais, trois enfants sur 35 partaient en 6e. Les autres allaient pas tous au certificat d'études, ceux qui y allaient ne l'avaient pas tous, et c'est évident que tous ne se faisaient pas zéro faute à leur dictée, n'arrivaient pas à résoudre les problèmes. Problème de robinet au train qui se croise. Il faut, quand on fait un constat de l'école aujourd'hui, rappeler de où elle est partie. En 30 ans, elle a considérablement progressé. On est parti de 6 à 10% de bacheliers à 66% de bacheliers, 70% et même davantage.
Vous prenez, on a massifié. Pierre Fracovec, vous prenez vous-même les résultats alors. Donc l'école doit produire des résultats. Parce qu'en fait, c'est ça la question, c'est quel est son rôle. Parce qu'on doit l'interroger sur ces questions fondamentales.
Je reviendrai juste dans un instant sur les résultats, évidemment, qu'on doit essayer d'évaluer. Encore faut-il se donner les bons instruments de mesure, les instruments qui permettent de comparer. Ce qui est actuellement tout à fait contestable. Y compris les évaluations internationales, Pearl, PISA, etc. Il faut analyser les épreuves. Certains de mes collègues...
Mais vous avez raison.
Marc Lebris, je sais que sur ce point-là, vous êtes d'accord. Le débat s'engage bien, vous êtes
actuellement,
d'accord.
Les résultats ne traduisent pas la réalité des efforts qui sont faits, et en plus, ils sont très mal interprétés. On a actuellement une vision catastrophiste et très pessimiste et noire de l'école, que je conteste. L'école a fait des progrès grâce aux enseignants, essentiellement d'ailleurs pas à l'encadrement, mais essentiellement aux enseignants, qui se sont mobilisés pendant une trentaine d'années pour la transformer, pour améliorer ses résultats, améliorer ses performances, surtout pour faire en sorte que les enfants qui en sortent, au-delà des résultats, deviennent des citoyens qui s'intègrent dans la société, qui assument des responsabilités, qui sachent s'exprimer, qui sachent vivre et avoir... comprendre le sens de leur existence dans la société telle qu'elle est.
Marc Lebris ?
Bon, alors, je ne suis pas du tout d'accord avec le portrait apocalyptique que vous faites de l'école des années 60 et du progrès que vous prétendez avoir obtenu par ce groupe de travail. Il y a une chose avec laquelle je suis d'accord, c'est qu'il faut remercier les enseignants. Mais à l'inverse de ce que vous dites, je pense que les enseignants ont sauvé l'école de la catastrophe où l'emmenait l'état-major qui s'est installé depuis 30 ans et qui, d'après moi, tient un pouvoir assez féroce et qu'il faut casser. Il faut redonner aux enseignants la liberté pédagogique, la liberté d'arriver à des résultats qu'on leur aura demandés. Il y a 30 ans, élitiste, le petit garçon qui était dans la cour de l'école avec moi, qui est devenu sous-directeur à EDF, ou l'autre qui est devenu médecin, sortait de la cour de ferme. Et ça, on l'a de moins en moins souvent. C'est-à-dire que cette école qui prenait...
Il y a moins de cours de ferme, excusez-moi.
Ouais, mais il y a des rues et des quartiers où ça ne va pas, c'est ça que je veux dire.
Bien sûr, non, mais bien sûr, je plaisante.
Voilà, c'est-à-dire que on apprenait à lire, à écrire, à compter à tout le monde, et les meilleurs de tout ça, ceux qui avaient su faire les problèmes de robinet.
Marc Lebris, vous parlez quand même d'un idéal de fonctionnement et une projection dans un avenir qui correspondait aussi aux projections qui pouvaient animer les enfants et les adolescents d'une certaine période. Aujourd'hui, pensez-vous que la société, les parents, surtout les enfants, parce qu'ils sont au premier chef concerné, soit dans ce système de projection du plus, du gagner plus, de sortir de l'ornière pour...
Je ne m'occupe pas de gagner plus, je m'occupe de savoir plus, de comprendre plus, de lire plus précisément et d'argumenter plus précisément. Voilà ce qui m'intéresse, moi c'est ça mon travail. Et donc mon travail, il est éminemment scolaire. Et donc je ne crache pas sur les problèmes de robinet, bien qu'on puisse trouver des problèmes... quelquefois un peu plus intelligent, du genre essayer de savoir de combien un morceau de bois s'enfonce dans l'eau en fonction de sa masse volumique. Voilà le genre de choses qu'on peut faire actuellement dans ma classe et qui sont des choses qui me semblent fondamentales, figurez-vous. Oui, ça vous est égal.
Non, c'est pas ça. Mais non, ça ne m'est pas du tout égal, mais ça m'est aussi important que le robinet.
Oui. Mais quand on est petit et qu'on veut comprendre comment fonctionne le monde, il faut le voir, c'est-à-dire qu'il faut plonger le bout de bois dans l'eau et il faut être capable de faire le calcul. Et là où je critique l'école qui vient de changer, c'est cette école de 30 ans passés, c'est qu'elle n'est plus capable d'aller à ces résultats-là.
Alors, Simplement, une pause, et pour vous dire que sur 800 votes actuels, donc franceinter.com, le téléphone est à votre disposition aussi, 01 45 24 7000. Je tiens à vous dire quand même que nous prendrons le temps de parler aussi des programmes qui sont annoncés et du nouveau mode éducatif qui, entre autres les changements d'horaire, etc., qui s'annonce à la rentrée prochaine. Le sondage, donc 800 votants, 46,6 sur la question doit-on transformer l'école primaire ? Non. Oui, 40,6. Donc il y a une petite évolution du côté du oui pour cette transformation de l'école primaire. A tout de suite. Je rappelle le téléphone, hein, c'est le 01 45 24 7000 pour Ça vous dérange sur France Inter. Soleil de Baudégal et Négresse verte, ça vous dérange sur France Inter. Aujourd'hui, c'est plutôt à l'ombre du préau de la cour d'école, puisque nous interrogeons sur les nouveaux programmes et cette transformation, on va l'appeler comme cela ainsi pour l'instant. Doit-on transformer l'école primaire ? C'est la question aujourd'hui, toujours en sondage sur franceinter.com, avec un pour qui évolue à 41,1% et toujours contre 46,3%. Nos invités sont Marc Lebris, instituteur directeur d'école à Médréac, en Ille-et-Vilaine, auteur d'un ouvrage. On vous trouverez aussi le lien sur Internet, à notre page Ça vous dérange chez Stock. Et Pierre Fracoviac, ancien instituteur, inspecteur de l'éducation nationale dans le Nord, et aussi co-auteur d'un livre avec Philippe Mérieux, dont vous trouverez aussi les références que j'ai citées, que je vous donne, hein, mais que vous trouverez à notre page d'émission. Et nous devrions avoir au 0145. Non, pas. Alors, je vous donne ce qui arrive, hein, pour l'instant. Tout d'abord, Gaëlle, sur Internet. Je suis heureuse d'entendre ce thème sur France Inter. Je suis éducatrice de jeunes enfants en Allemagne. Je me suis formée ici. Vous voyez, je devrais retourner à l'école, hein, aussi. Très mauvais exemple. Je me suis formé en Allemagne. Le fossé entre l'Allemagne et la France est énorme. La réalité est que la France a un retard gigantesque. Donc, Marc Lebris, apparemment, ça va correspondre à vos propos. Tous les nouveaux moyens pédagogiques ne sont pas utilisés. Je travaille, nous sommes 5 professionnels pour 15 enfants de 1 à 5 ans. Je vous laisse débattre juste sur ces chiffres, à propos des chiffres, et donc de l'application des nouveaux horaires, et puis du nombre d'enseignants, enfin l'encadrement qui va permettre à ces nouveaux programmes d'exister. Pierre Fracoviac, un point de vue.
Oui, je veux redire quand même très clairement que si les responsables politiques de notre démocratie, depuis les années 70, provoqués essentiellement par la décision de De Gaulle de prolonger la scolarité de 14 à 16 ans, qui modifiait complètement le système, si tous les responsables successifs, d'abord de droite, puis ensuite de droite et de gauche en alternance entre 80 et 2002, ont décidé tous, à une exception près ou presque, de transformer l'école dans une remarquable continuité républicaine, c'est qu'il fallait le faire. C'était pas des destructeurs, c'était pas des imbéciles, c'est pas des fous furieux, c'est qu'il fallait transformer l'école pour répondre aux nouveaux besoins d'une société en constante évolution, même en évolution rapide. Que les efforts réalisés par les uns et par les autres n'aient pas été suffisants, ne soient pas suffisants, c'est incontestable, je le dis moi-même. De dire qu'il n'y a pas eu de progrès, que nous sommes les derniers de la classe dans le monde, c'est faux. Notre société et notre pays seraient en totale décadence si l'école n'avait pas répondu aux attentes qui étaient les siennes. Mais je le répète, elle peut faire mieux. Le fait est que la divergence que j'ai avec M. Lebris, c'est que pour faire mieux, moi je considère que c'est pas en faisant marche arrière de 30, 50 ou 100 ans qu'on réussira à faire mieux. Il n'y a aucun domaine de la société, aucun, sauf si on me le démontre, où pour résoudre les problèmes d'aujourd'hui et de demain, on fait appel à des solutions d'avant-hier. Aucun. Imaginez le TGV, c'est un exemple que j'aime prendre. Imaginez le TGV, ses performances sont insuffisantes, on ne met pas des diligences sur les rails du TGV pour résoudre les problèmes de ces insuffisances. Aujourd'hui, il y a des progrès à faire. Les résultats ne sont pas aussi catastrophiques qu'on veut bien le dire. Les enseignants se sont mobilisés. Certains ont résisté à la nécessité du changement. C'est de leur responsabilité. Mais les enseignants ont progressé. L'école a progressé. Elle doit encore faire des progrès. On sait comment, sûrement pas en faisant marche arrière de 30 ans.
Alors, avant de laisser la parole à Marc Lebris, nous avons Denise à l'antenne, 01 45 24 7000. Bonjour Denise.
Oui, bonjour.
Donc votre point de vue sur cette première partie d'information sur cette transformation et les nouveaux programmes qui s'annoncent pour l'école primaire?
Eh bien moi, mon point de vue, c'est que je ne suis pas du tout d'accord avec le monsieur qui vient de parler.
Pierre Krakowiak.
Voilà, je suis d'accord avec monsieur Lebris. D'abord, je tiens à dire à ce monsieur, à monsieur Kowiak, que l'école n'est pas un TGV, on ne peut pas comparer ça. Par contre, je trouve qu'elle n'a pas évolué, elle a involué, il y a un non-respect. On n'a qu'à voir l'histoire de la claque l'autre fois, l'élève se l'est bien mérité. Je pars du principe que quand on énerve un prof, c'est déjà un châtiment corporel puisqu'on fait monter l'adrénaline à quelqu'un. Donc ça se voit peut-être pas à l'œil nu, mais ça se voit à l'intérieur de sa physiologie. Et quelqu'un qui fait monter l'adrénaline quand ils sont 30, bon, l'école, on a fait passer des bacs bidons depuis des années à des gens qui vont aller sur les bancs de la fac et qui ressortent 2 ans après sans métier, sans rien. Ils font les meilleurs qui ont un bac font à peu près 5 fautes sur une page écrite.
Oui. Denise, excusez-moi de... Denise, j'y mets mon petit grain de sel. Je vais faire un aveu. J'ai passé mon bac il y a quelques 25 ans, même plus. On m'a jamais dit, il y a 25 ans ou 30 ans, que le bac allait me permettre d'avoir un emploi. Ça ne change pas aujourd'hui.
Non, mais alors il sert à rien. Alors faisons un contrôle continu.
Non, il faut monter les marches. Non, Denise, il faut une marche.
Oui, mais le bac est une clé pour entrer à la fac. Mais le problème, c'est qu'on a inventé, on a adapté des bacs, on a rabaissé le niveau du bac pour qu'il y ait des gens, au lieu d'aller apprendre un métier comme avant et qu'ils soient cotisants, puisque vous avez un môme qui a 9,5, moi je suis désolée, il n'a pas de bac. Ils ont un bac bidon, genre bac de vente, etc. Qu'est-ce qu'ils ont dans les mains? Il vaut mieux avoir un métier à 14 ou 16 ans. Ça fait des cotisants, ils ont un métier plus tôt, ils partiront à la retraite plus tôt. Et la fac sera désengorgée d'élèves qui n'ont pas leur place là, d'ailleurs, et qui ne la trouvent pas.
Merci, Denise. D'ailleurs, on va demander, Marc Lebris, quant à ce brave garçon qui quitte l'école plus tôt pour avoir un métier, il sera en retraite plus tôt, c'est peut-être pas décidé non plus. Mais en tout cas, ça, c'est un autre sujet. Marc Lebris.
Non, je suis moi aussi persuadé que le baccalauréat a beaucoup changé, en particulier pour des questions très techniques, parce que j'aime pas trop qu'on soit dans l'idéologie pure. En particulier, le bac S de maintenant démontre très peu de choses en mathématiques. La démonstration au collège et au lycée a quasiment disparu. Et ça me navre. Je pense, moi, au contraire, que le travail du collège et du lycée, c'est, pour les mathématiques en particulier, d'aller vers la démonstration, c'est-à-dire vers l'indépendance d'esprit. Mais toute chose. Non, je vous assure.
Oui, non, bien sûr.
Il n'y a plus que dans l'option S-math qu'il y a un peu de démonstration. Et ça, c'est une des conséquences de la révolution de 30 ans dont parle M. Frakowiak.
Et Marc Lebris,
c'est-à-dire qu'on
ça
a remplacé.
Ça veut dire quoi, la démonstration? C'est apporter un caractère pratique à la valeur théorique du savoir, puisqu'on parle
ça
encore de savoir.
Ça veut dire donner aux adolescents la possibilité de soutenir ce qu'ils pensent, qui est quelquefois un peu contraire de ce que pense leur père. Si vous ne démontrez pas ce que vous dites, vous ne pouvez pas exister indépendamment des lieux communs que la civilisation trimballe. Donc si vous voulez, à 15 ans, vous opposer à votre père, il faut que vous ayez appris à réfléchir. Quoi de mieux pour cela que la philosophie dont nous parlions tout à l'heure, et des mathématiques, et de la preuve rigoureuse qu'il faut apprendre à mener. Voilà mon débat. Je veux dire, les choses dont nous parlons là sont des choses bien plus fondamentales qu'il n'y paraît. Et si nous n'apprenons pas à démontrer aux jeunes gens, nous décousons le tissu social beaucoup plus profondément qu'il n'y paraît. Et donc, oui, monsieur Frakowiak, nous sommes au bord d'une grave crise culturelle qui va frapper notre pays dans les années à venir.
Pierre Frakowiak, et puis après vous écouterez une autre version de l'école encore.
Oui, le retour en arrière de 30 ans, mais qui finalement est un retour de 50 ou de 80 ans en arrière, ne conduit pas justement à permettre aux enfants de développer leur intelligence, leur capacité d'analyse, de synthèse, de raisonnement, de déduction, d'induction, etc. Puisqu'on revient à des pratiques extrêmement mécaniques où c'est le maître qui démontre, l'enfant écoute, construit pas du tout du raisonnement, il applique simplement, et donc ce retour en arrière est une marche arrière considérable sur l'ambition de l'école qui doit être émancipatrice, développer l'intelligence, développer les capacités d'analyse, et pas seulement fournir la capacité de décortiquer, de lire « papa fait pipi dans le popo » ou « beu à bas » ou des choses extrêmement mécaniques, mais d'aller vite dans le sens.
Là, c'est vous qui méprisez les enseignants, M. Frakowiak.
La plupart des enseignants que je vois, moi, tous les jours, ont dépassé ce cap-là depuis longtemps et ont compris qu'apprendre à lire, c'est d'abord apprendre, et dans tous les domaines c'est pareil, c'est d'abord apprendre à faire, à comprendre, c'est d'abord, comme le disait déjà Freinet...
Il y a deux, trois associations de lettres qui sont nécessaires pour pouvoir lire, pour pouvoir aller au sens. J'étais chez les grandes sections hier et je les regardais lire.
Je ne veux pas aller dans ce débat-là parce qu'il serait trop long et trop complexe, simplement pour dire que préconise M. Lebris et ses amis, le retour en arrière, c'est tout le contraire de la perspective du développement de l'intelligence et de l'épanouissement des enfants. Mmh. C'est tout le contraire.
Alors, on va vous donner un élément de mon retour en arrière.
Bon, alors, allez-y, Marc Lebris, et qu'après, vous aurez une autre
version. On a donc plongé des bouts de bois dans des bassines d'eau, nous. Hein, et à la fin des quelques problèmes, il fallait calculer la hauteur avec les immergés. Il y a un gamin qui me dit, mais si ça change ça, ça change pas ça. Et il me dit, mais écoute, écris. Et voilà donc un gamin de 10 ans et demi qui m'écrit hier. Avec une planche de bois, peu importe la hauteur de la planche, tu obtiens toujours le même pourcentage qui est dans l'eau. Par exemple, pour le platane,
d'abord,
il y a toujours 65% d'immergés.
Il vous tutoie, c'est pas bien.
Dans son texte écrit, il me tutoie. Ouais. Mais mes élèves, moi, j'ai une partie de mes élèves qui me tutoient, ça m'est égal, ça me dérange pas, moi. Parce que je suis là depuis 30 ans et puis que j'ai eu leur père qui me tutoie maintenant. Donc c'est pas une question pour moi. La question, c'est celle-ci. C'est-à-dire que le petit bonhomme, là, il a raisonné, on a tripoté, mais on a calculé. Et maintenant, on est capable de trouver tout seul des choses comme ça, c'est-à-dire des généralisations mathématiques. C'est-à-dire, on construit la pensée. Et je ne comprends absolument pas la critique que vous faites.
Combien d'élèves sont capables de faire ça sur une génération et sur une classe d'âge?
J'ai 31 élèves en CM1, CM2.
Et 31 sont 16... capables de faire ça.
Là,
les pratiques que vous préconisez...
J'avais 4 CM1 qui sont capables de faire ça. Et j'avais 5 CM2 qui étaient capables de faire ça.
C'est ça. Les pratiques que vous préconisez, leur grand danger, c'est qu'elles vont accroître les inégalités. Les enfants qui ont déjà la maîtrise par leur milieu...
Je suis désolé. J'ai des enfants de toutes origines. J'ai des petits bons hommes et des petites bonnes femmes qui ont traversé des montagnes à pied dans la clandestinité pour venir se réfugier en France.
Monsieur
et que j'ai
Brice,
défendu à l'erreur.
Monsieur Lebris, on sait.
Arrive on à lire le des... français, à savoir qui est Aliénor d'Aquitaine et à on pouvoir sait. Commencer à raisonner, aller vers le raisonnement grâce à des choses comme ça. Et vous me
on
dites
sait que
on
les méthodes.
Pas.
On sait que les méthodes.
Les grands scientifiques modernes ont établi que mes méthodes étaient mauvaises. C'est tout à fait faux.
Elles sont périmées. Elles correspondent. Elles sont. Elles
non. Dit... Entre une équipe qui marche et une équipe qui marche pas, on prend l'équipe qui marche.
Prenons
BA pour apprendre à lire, ça marche. Et votre histoire du sens et du machin.
Les enfants. Les enfants d'aujourd'hui, mais tous les gens.
Pierre Fracot,
les enfants. Ceux qui ont des enfants aujourd'hui et des petits-enfants savent très bien qu'on ne peut pas faire la même chose avec les enfants d'aujourd'hui. Essayez-vous chez vous qu'avec les enfants que nous étions
ou
que, nous, que nos grands-parents étaient. C'est impossible. Les enfants sont très différents. Je vais prendre l'exemple de l'actualité. Aujourd'hui, simplement, tous les enfants aujourd'hui savent quasiment instantanément, comme leurs parents, qu'Ingrid Betancourt a été libérée. Est-ce qu'on va dire à l'enfant « Ouvrez votre livre de grammaire page temps » pour faire l'adjectif qualificatif, ou est-ce qu'on va profiter de ce partage d'informations et de cette émotion pour faire parler, faire réfléchir, faire raisonner, etc.
Je ne veux pas enseigner l'émotion. C'est M. Sarkozy qui fait l'émotion.
Messieurs, Pierre Fracoviac, Marc Lebris, je vais vous proposer, à titre de réflexion, un exemple particulier.
L'émotion contre le raisonnement, pardon. Mais
ce sont des exemples qui existent sur certains lieux, dans certaines académies où cela est permis, dans le cadre d'une formation supplémentaire en école primaire. Et nous avons un exemple, c'est Gilles Geneviève, j'avais rencontré par l'intermédiaire de Michel Onfray, parce qu'ils travaillent tous les deux à l'Université populaire de Caen. Gilles a enseigné principalement en ZEP à Caen, il est professeur des écoles, et depuis près de 10 ans, il milite pour proposer des ateliers de philosophie pour des enfants en école primaire, la philo pour les moins de 10 ans. Une innovation pas toujours facile à faire admettre à l'école, comme vous allez l'entendre dans un instant. On va rencontrer donc Gilles Geneviève grâce à Antoine Lee qui est parti le voir à Caen. D'abord, il se trouve devant la cassette, parce que les cours sont terminés, devant la cassette vidéo d'une séance enregistrée avec des enfants de cours moyens. Écoutez.
Alors, on va mettre la cassette dans le magnétoscope et on va regarder cette séance. La première question, c'est pourquoi certaines personnes font-elles du mal aux animaux ?
Quand on fait du mal aux animaux, par exemple, c'est un animal sauvage, et bah si on le dresse, et bah peut-être qu'on le prend de sa famille, et puis ensuite ça va le faire mal.
Quel rapport avec le mal? Où est le mal là-dedans? C'est ça que je ne vois pas.
Bah le mal, c'est de le prendre de sa liberté.
Le maître, ou l'animateur de la discussion, du moment de philosophie, est quelqu'un qui se place comme un ignorant, si vous voulez. C'est-à-dire qu'à aucun moment, je n'interviens, moi, sur le fond de la discussion. Ce qui est quand même en rupture radicale avec ce qui se passe habituellement à l'école, pas de c'est nul, pas de c'est bien. Est-ce qu'on a plutôt intérêt à ça, ou est-ce qu'on a plutôt intérêt à ce que les enfants réfléchissent et développent un esprit de critique radicale? La philosophie, pour moi, est critique radicale, c'est-à-dire que du monde. Hein, c'est-à-dire que tous les sujets sont accessibles à notre réflexion, et pas seulement les sujets sur lesquels on nous autorise à penser.
La vision que vous avez, est-ce qu'elle passe bien au niveau de l'éducation nationale, au niveau de votre hiérarchie, par exemple?
Les innovateurs sont toujours regardés avec méfiance. Pour ce qui est de la philosophie avec les enfants, de la même façon, on a eu, c'est vrai, un certain nombre de difficultés. Par moments, des bâtons mis dans nos roues, c'est très clair. Mais je pense que c'est à la fois le fait de certains éléments de la hiérarchie, mais aussi le fait de certains enseignants. C'est-à-dire que, je ne vais pas me faire que des amis, mais il me semble qu'un certain nombre d'enseignants font ce métier par goût du pouvoir, si vous voulez. L'institution est néanmoins perméable, je dirais, à un certain nombre d'innovations, mais les choses se font très lentement, et je dirais plutôt sous la pression du nombre que d'une façon spontanée ou vraiment impulsée par les décideurs, je dirais.
J'aime à faire le ramadan, et à la fin du ramadan, il tue un mouton. Ça veut dire que j'ai du mal.
Alexandra, je ne suis pas du tout d'accord avec toi, parce que nous, si on tue le mouton, c'est pour une bonne cause.
Ça fait comme toi, toi aussi tu manges du mouton, hein, comme nous on mange de la dinde à Noël, et bah oui, ils font comme ça.
Les deux formes d'intelligence qui sont vraiment mises en avant à l'école, c'est l'intelligence mathématique et l'intelligence logico-verbale. On risque de laisser des enfants un peu sur le bord de la route parce qu'on ne fait pas appel à d'autres formes d'intelligence. D'ailleurs, je voulais faire allusion à une des enfants là, qui a vraiment participé de façon tout à fait on dirait pertinente, en énonçant des choses tout à fait originales. Et voilà. Et cet enfant-là, je me dis, elle doit être une bonne élève. Et j'ai appris par la suite qu'elle était entrée en SECPA, c'est-à-dire dans la filière qui accueille les enfants en difficulté, si vous voulez, pour aller vite. Donc, pour moi, même professionnel, qui n'avait vu cet enfant que dans ce cadre-là, j'estimais plutôt qu'elle se débrouillait bien, si vous voulez. Or, les critères de l'école la considéraient comme une enfant en difficulté. Le jugement porté par l'école sur les enfants est un jugement parcellaire. On juge un tableau, si vous voulez, comme si c'était un puzzle et qu'on avait mis que deux ou trois pièces de ce puzzle au mur, et on dit ouais, le tableau il est beau ou le tableau il n'est pas terrible, quoi. Et il manque beaucoup de pièces, effectivement, qui ne sont pas examinées.
Alors, exemple donc extraordinaire avec Gilles Geneviève, Pierre Frakowiak évidemment s'y reconnaît, Marc Lebris beaucoup moins.
Mais c'est cet exemple qui est tout à fait intéressant, parce que les enfants de la maternelle sont capables de parler de la vie, de la mort, ça les passionne, de l'amitié, de l'injustice, etc. Et ils s'expriment à cette occasion-là bien mieux que si on leur donne une page du livre du manuel d'Artempion. C'est tout à fait passionnant, mais c'est en totale contradiction avec les nouveaux programmes et les nouveaux horaires imposés par le ministère actuellement. C'était un peu dans le socle commun de compétences, cette connaissance, cette compétence qui a été élaborée il y a quelques temps, mais c'est complètement gommé par les nouveaux programmes qui en reviennent simplement à de la transmission mécanique et pas du tout à de la réflexion sur des problèmes de société qui passionnent les gamins.
Oui. Pierre Frakowiak, par rapport à, excusez-moi Marc, par rapport à ce sujet, par exemple, sur les enfants qui sont capables de parler de la mort ou de l'actualité à l'école, est-ce que les enseignants sont préparés à cela?
Nous avons tout fait pour, dans la formation des enseignants, qui est aujourd'hui profondément mise en cause, même condamnée.
C'est pour ça que je vous pose la question. Hein,
complètement condamnée. La pédagogie condamnée. Comme si la pédagogie, c'était simplement un art, des trucs, des habiletés, du talent. La pédagogie, c'est autre chose que ça. Quoi.
Actuellement, c'est aujourd'hui, une fausse science.
Aujourd'hui, je n'ai pas dit que c'était une science, d'ailleurs, mais c'est
elle qui le prétend.
Au moins, ça nécessite une formation professionnelle qui est aujourd'hui complètement négligée. Mais pour faire ça, pendant longtemps, déjà depuis 70, transformation de l'apprentissage du français avec les nouvelles instructions officielles, que l'école apprenne à parler. N'oublions pas que l'école de Jules Ferry n'apprenait pas à parler, elle apprenait à se taire. Et jusque dans les années 60, on apprenait à se taire à l'école. On a commencé à apprendre à parler après. Et on a appris à bien parler après, à exprimer une pensée après. Donc c'est ce témoignage qui est vraiment remarquable et en totale contradiction, il va avoir des ennuis. Le gars qui fait ce...
Il s'appelle Gilles Geneviève. Hein,
il le fait de pas d'ennui, parce que comme Marc la plupart des enseignants, c'est un collègue dévoué qui travaille et qui fait son truc, mais je pense qu'il commet des erreurs de fond sur ce qu'est l'enfant. C'est-à-dire que...
Mais vous pensez que c'est un gadget, son exercice?
Non, je pense que c'est une erreur. Je pense qu'il met la charrue avant les bœufs. Je pense
C'est ça, c'est toujours du simple au complexe. Il faut d'abord être bête avant de devenir intelligent. Il faut apprendre à être bête avant de devenir intelligent.
Intelligent, c'est pas simple et complexe. C'est pas pareil. Là, vous manquez au raisonnement. Je trouve que c'est joli tout ça. Mais à part des lieux communs dignes de l'enfance, et c'est qui sont jolis et normaux, on ne fera pas pondre aux gamins un traité philosophique. Par contre, à certains moments,
pourquoi pas
en ouvrant le manuel Tartampion, en ouvrant par exemple le manuel que je diffuse moi sur Internet en ce moment, j'ai donné à mes élèves un texte de Pierre Loti où il parle de sa mère au moment de la fête des mères, un truc tout bête, et il finit par dire que finalement il ne croit pas vraiment en Dieu, enfin on comprend, et puis finalement quand il pense à sa mère, il la croit éternelle et donc il croit à l'éternité. Que croyez-vous qu'il advint ? Toute ma classe d'élèves de 9 ans et 10 ans s'est emparée de l'affaire, et puis en a parlé avec une maturité enfantine tout à fait belle, tout à fait précise, et ils ont dit précisément des choses avec le vocabulaire qui est le leur, et qui ont été remarquables, intéressantes, et je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas trouver dans un livre écrit il y a 50 ans ou il y a 100 ans quelque chose d'intéressant, et qu'il n'y a pas que l'actualité qui va servir à...
Monsieur Lebris, les programmes actuels sont en contradiction totale avec l'expérience qui vient d'être décrite. Ils ne permettent pas cette expérience-là, ils sont en totale contradiction. Et l'ensemble des programmes est en contradiction avec cet exemple tout à fait remarquable qui place l'enfant au cœur de nos préoccupations, l'élève au cœur de nos préoccupations, en totale contradiction. Le fait de gommer complètement le socle commun de conquêter critiquable, mais qui était un progrès au sens de la définition des ambitions de l'école, le fait de le gommer et de l'ignorer, comme bien d'autres décisions qui sont prises actuellement, est nocif pour l'école, dangereux pour l'école.
Ce qui se passe, c'est qu'il y a, là, il y a un virage. On a 30 ans d'échec. Il y a deux ou trois ministres qui se succèdent de gauche et de droite, qui ont essayé de dire bon, on va arrêter parce que ça ne va pas. Et il y a donc une caste construite sur une fausse science qui a osé reprendre le beau mot de pédagogie comme titre, qui se débat pour essayer d'empêcher ça. En fait, il y a un point d'arrêt.
Il y a tellement de choses à dire, parce qu'il y a deux points importants. C'est quand même dans quelle société doit s'inscrire cette école dont on parle. Et celui-là est important. Et puis ensuite, de donner peut-être quelques exemples. Ça a déjà été fait sur les propositions qui vont modifier, pour les uns, un retour, pour les autres, une avancée dans le cadre donc de cette nouvelle école. Le téléphone, c'est le 01 45 24 7000. Et puis, vous pouvez utiliser Internet aussi, hein, franceinter.com. Pour le sondage qui court toujours, doit-on transformer l'école primaire ? Vous aurez le résultat en fin de l'heure, résultat définitif, évidemment. 01 45 24 7000.
Ça vous dérange ? Philippe Bertrand.
Et je ne vous ai pas annoncé, mais faut-il le faire encore, Rita Mitsouko, l'ami ennemi, ça vous dérange sur France Inter, autour de l'école, de la remise en jeu, doit-on transformer l'école primaire avec un sondage qui court toujours, et puis vos points de vue très très nombreux, on le comprend, points de vue d'ailleurs très partagés, hein, c'est-à-dire autant à l'égard de la position tenue contre cette réforme par Pierre Fracoviac que par la position de Marc Lebris, qui soutient évidemment cette réforme. Alors on a une question, on va parler de la réforme et on parlera de la société en même temps parce que c'est une question primordiale à mon avis, elle revient souvent, entre autres Anne-Marie qui nous dit en tant qu'enseignante, l'environnement a évolué et chaque fois on entend parler des personnes dites qualifiées, du bienfait de revenir à des méthodes il y a 30 ou 40 ans, alors, donc elle a déjà un jugement là-dessus. On ne fait jamais le lien avec l'environnement, et avec l'environnement social et le contexte social d'actualité. Nous avons tout d'abord Jacques en ligne, bonjour Jacques.
Bonjour.
Jacques, vous voulez donc parler de cette nouvelle organisation et en particulier des horaires. On va passer de 26 à 24 heures hebdomadaires, hein, je le rappelle.
Oui, je voudrais parler des 26 moins 2 ou des 24 plus 2. Donc, je suis enseignant en Loire-Atlantique. Nous sommes très en colère depuis maintenant un mois et demi. Nous avons essayé de diffuser le message. Et je voudrais donc parler des rythmes de vie parce que donc il y a donc deux heures d'enseignement qui sont supprimées et qui vont être mis au bénéfice, entre parenthèses, des enfants en difficulté. Ces deux heures, nous avons bien du mal à les mettre en place, à les mettre en œuvre. Et j'étais l'autre jour à une réunion et des enseignantes disaient, nous avons vraiment une difficulté à mettre en place ces deux heures. Et nous avons aussi des enfants en bas âge, nous-mêmes des enfants en bas âge. Et ces deux heures, nous allons les mettre le midi. Et donc, je suis tombé un petit peu dénué en me disant, bah, où sont les rythmes de vie de l'enfant dans cette histoire? On assiste en ce moment à des aberrations qui vont se mettre en œuvre, des disparités sur les écoles, sur les communes. C'est une des choses que je voulais soulever, mais il y en a énormément.
Alors, merci Jacques. Marc Lebris va vous répondre, et puis Pierre Frankoviak aussi, j'imagine. Marc Lebris, concernant l'aménagement de ce soutien scolaire qui va intervenir, là, entre autres, dans un horaire qui paraît impossible.
Oui. Quand on m'enlève 2 heures d'enseignement général, je ne suis pas content. Quand on cherche des solutions pour installer du préceptorat, quasiment, pour les 2 ou 3 gamins en difficulté de la classe.
C'est ce qu'on disait dans le temps jadis passé.
Voilà, ça
le préceptorat.
C'est-à-dire qu'il va y avoir un instit pour 2-3 gamins, et j'ai envie de dire aux collègues, mettez pas ça à midi, il faut qu'ils mangent, les pauvres chéris. Mais en reprenant une petite tranche horaire après 4h30, en laissant un battement de 5 minutes, pour refaire non pas la classe, parce que ça va être du 1 par 1 ou du 1 pour 2, ça change complètement, c'est donc tout à fait praticable, et il y a des enfants qui en ont besoin. Donc, moi j'ai testé ça déjà cette année, et ça a une certaine efficacité. Pour tout vous dire, j'y croyais pas au début.
Là, à midi, en tout cas, c'est une...
C'est pour moi, non. Mais bon,
Pierre Frankoviak.
Oui, d'abord, toutes les écoles de France n'auront pas les moyens de le faire. Hein. Les enveloppes seront limitées.
Parce qu'il s'agit d'heures supplémentaires.
Non, c'est des heures qui vont être faites par tout le monde.
Non, il n'y a pas assez d'enveloppes dans les départements, dans les inspections académiques, pour que toutes les écoles puissent en bénéficier.
Mais si, donc, non, c'est pas ça. Écoutez.
Je le gère. Je vais mettre en place.
Ça pose de problème. C'est la demi-heure, c'est les 2 heures obligatoires, c'est nos heures de présence enfant.
Les 2 heures. Ah oui.
C'est de ça qui parle.
Le soutien pendant les vacances scolaires, c'est pas pour tout le monde. Deuxièmement, parce que ça fait partie du soutien. Deuxièmement, en ce qui concerne le soutien pendant les 2 heures, 60 heures, grosso modo 40 heures, parce qu'il y aura à peu près 20 heures de préparation, 40 heures dans toutes les écoles. Pour quels enfants? Des enfants qui sont en rejet de l'école. Imaginez les enfants qui ne supportent pas la soupe, on leur en remet 3 cuillères le soir, alors que les autres sont déjà dans la cour.
C'est les enfants qui ne supportent pas le réfectoire, et on va leur donner la béquille.
Ce soutien est une véritable escroquerie, en fait. C'est une publicité déguisée pour les officines de soutien, en fait. C'est démontrer que l'école n'est pas capable de résoudre ses propres problèmes pendant le temps scolaire, et donc qu'il faut faire appel à du hors temps scolaire. Au moment où on a intègre des enfants handicapés et en grande difficulté dans le temps scolaire, dans les classes normales, on exclut les enfants qui présentent des difficultés à un certain moment. C'est vraiment une escroquerie intellectuelle. Non. Jamais personne ne peut démontrer qu'une demi-heure de plus de bled ou de bœuf à bas résoudra le problème d'enfants.
Vous vouliez dire, c'est ça?
Résoudra les problèmes des enfants qui sont en difficulté et qui ne comprennent pas le sens de l'école et pourquoi ils sont à l'école. Cette décision-là qui a été prise dans la précipitation sans concertation, peut-être sans concertation avec personne, rapidement imposé, sans consultation avec les collectivités locales, précipitation, me paraît extrêmement dangereuse. On dit aujourd'hui que c'est une expérimentation, on verra, mais comment mesure-t-on les expérimentations?
Est-ce qu'on ne veut pas, d'une certaine manière, ce qui pourrait paraître logique, parce qu'il y a tellement de soucis à l'intérieur de cette enceinte scolaire? Il faudrait parler de la société. Et cette société, d'abord, première école, celle de la famille et des parents. Et quand même un interventionnisme par moment. Et vous êtes le premier à le constater, Marc Lebris, vous l'avez dit, sur l'école primaire, j'ai constaté environ 100 000 à 150 000 documents, cahiers parascolaires qui sont vendus dans les grandes surfaces, achetés par des parents d'enfants d'école primaire. Il y a l'impression que les parents font leur propre école et que finalement, on a les enfants. Pourquoi aujourd'hui il y a des conflits? Les enfants viennent quasiment chargés d'un savoir qui n'est pas celui transmis logiquement par l'école. Il y a un petit souci, non?
Oui, il y a un petit souci. Mais le petit souci vient de notre dysfonctionnement à nous. Quand les parents ont eu les aînés qui sont revenus après la méthode de lecture Mika ou la méthode de lecture machin et que personne ne sait lire et qu'ils ont des orthographes épouvantables, il y a certes des questions environnementales qui ont joué là-dedans, mais il y a aussi les questions scolaires, et donc les parents essayent de récupérer par tous les moyens parce qu'ils connaissent l'importance de la connaissance aujourd'hui, et donc ils se battent et ils essaient. Non, et ils essayent, et alors il y a des commerçants qui se sont emparés de l'affaire.
Mais dans la logique concurrentielle qui est la nôtre, qui est aussi la vôtre lorsque vous parliez des résultats et des comparaisons, est-ce que dans cette logique de la compétition, les enfants ne sont pas, en tant qu'individus déjà, dans une course qui ne correspond pas à l'esprit collectif que doit être l'école normalement?
C'est pas une compétition l'école, ce sont les enfants qui sont compétiteurs. Ils passent leur vie à essayer d'être le premier rangé pour entrer devant la porte de la maîtresse ou être celui qui court le plus vite. Ils passent leur vie à
ça. Quelle société on prépare en développant cette civilisation, cette
société
des gagnants?
Je ne prépare pas une société, j'apprends à lire et à raisonner à mes élèves. Le mieux possible et le plus soigneusement possible.
Vous dites que les gamins sont déjà des compétiteurs et vous favorisez cette compétition.
Non, pas moi.
Mais dans quelle société? Mais si, vous venez de le dire. Mais dans quelle société?
Je vous dis que les enfants passent leur vie à se mesurer les uns aux autres. C'est comme les petits
l'école
autour de la meute se mesure les uns aux autres. Je vois bien que dans ma cour d'école, ils se mesurent les uns aux autres. Je ne fais pas de l'idéologie.
Mais le fonctionnement de l'école d'avant-hier était exactement ça. D'ailleurs, la compétition existait essentiellement entre les cinq premiers. Il fallait que le gosse du voisin ou du toubib, etc., batte celui-là.
C'est terrible.
Cette compétition-là...
Vous m'accusez de...
Cette compétition-là était le lot de l'école d'avant-hier. Elle a joué son travail, elle a fait son travail. Mais elle s'inscrit dans une société des gagnants qui n'est pas une société démocratique.
Il y a deux questions qui m'embarrassent.
C'est pas technique ça, ce que vous dites. Vous avez une idéologie que je vous...
Non,
c'est
vous
très
aussi.
Bien. Oui, bien sûr.
Aussi.
Je suis, mais en plus, je dirais
on
pas laquelle.
On n'a pas tout à fait
moi.
La même. Mais...
On n'est pas si loin que vous pensez. Hein.
On a un point de vue au 0140 parmi les très très nombreux.
Vous êtes idéologique et vous n'êtes pas technique.
Merci à tous pour tous vos appels. Exemple avec Claude que nous avons en ligne. Claude, bonjour.
Oui, bonjour.
Mon Claude.
Ouais, moi j'ai en fait été étudiant, enfin pas étudiant, enseignant pendant 2 ans. Donc c'est vrai que je me posais un petit peu la question, est-ce que le problème quand on parle entre guillemets d'échec scolaire, est-ce que c'est pas lié aussi à l'échec dans la société? Enfin, s'il n'y a pas un peu quelque chose qui se retrace. Et puis après, quand on parle d'un problème, il y a un début, il y a une fin. C'est savoir où on commence et où on veut aller. Alors c'est vrai que pour les enfants, ce qui est important, c'est d'apprendre à avoir les bases pour se débrouiller un petit peu dans la société. Hein. Mais après, la philosophie, c'est important, parce que la société, c'est quand même, fait partie de l'humanité. Hein. Enfin, c'est ce qui permet d'évoluer un petit peu dans le temps. Donc est-ce que... déjà, les enfants, ce qui est important, c'est qu'ils aient un raisonnement, c'est vrai. Et à ce sujet-là, les enfants ne sont pas égaux, quoi. C'est-à-dire que certains ont un très très bon raisonnement, et par contre n'ont pas de mémoire, et d'autres, vice-versa, ont beaucoup de mémoire et très peu de raisonnement. Donc aujourd'hui, c'est ça, on essaye de faire, hein, de formater un petit peu les gens, de façon à ce qu'ils soient de telle façon ou telle façon, mais est-ce que l'intérêt, ce serait pas justement de revoir... La façon dont on aborde les choses. Voilà.
Merci Claude pour ce point de vue.
J'espère que ma question n'est pas confuse, c'est vrai que...
Non, mais ça va. Et alors figurez-vous, pendant que vous parliez, je voyais Pierre Fracoviac et Marc Lebris noter, vous écouter mot à mot, il n'y a aucun souci, et je pense qu'on vous a bien compris.
Mais je suis
vous
bien
vous
d'accord
vous
que les enfants sont tous différents.
Si vous voulez parler d'un sujet comme ça, c'est parler d'un sujet de société, c'est
absolument.
Parler d'un sujet qui est extrêmement tout complexe, et poser une question, essayer de tabler la chose, c'est bon, c'est pas évident, puis c'est vrai, bon, quand passe à l'antenne, moi j'ai un petit peu le trac.
Oui, non, mais...
Donc est-ce que je trouve les mots justes?
Pas de problème, Claude.
Je ne sais pas, mais j'espère que je n'ai pas été trop confus.
Non, ça va. Merci, Claude. Voilà. Marc Lebris. Merci à vous. Marc
Lebris. Ce avec quoi je suis d'accord, et j'ai passé ma carrière à finir par l'accepter, les enfants sont différents. Il y a des enfants, comme il l'a dit, qui ont des mémoires efficaces, d'autres des mémoires moins efficaces, des raisonnements, et ça c'est tout à fait exact.
Je crois que vous allez me dire, les enfants ne sont plus les mêmes.
Alors non. Par contre... je ne vois pas pourquoi notre système de reproduction aurait changé et nos rejetons soient fondamentalement différents maintenant d'il y a 50 ans.
Non.
La société qui entoure,
s'il vous plaît,
elle
pas
est
le
différente.
La société
mais qu'est-ce que
est
c'est l'école primaire,
les enfants sont plus
élémentaires. C'est l'école des éléments, c'est l'école
qui pose les bases
culturelles de la société. Et c'est comme ça qu'on définit une culture. Et donc l'école se doit d'avoir une stabilité, une rigueur et une honnêteté.
Monsieur Lebris, l'humanité a accumulé en 20 ans plus de savoir que dans les 2000 ans qui précédaient. Est-ce que ça
transforme l'école? Je voudrais que mes élèves en aient le plus possible chacun dans sa tête.
Est-ce que ça ne transforme pas l'école? Ils ont accès à des tonnes de savoir que les autres, que nous, quand nous étions petits, auxquels nous n'avions pas accès.
L'environnement...
l'environnement s'est considérablement modifié, comme si ça n'avait pas d'impact sur les enfants et sur leur comportement. Sur l'interlocuteur, tout à l'heure, ce qu'il disait, il a raison. Sans doute faut-il des bases, et c'est la préoccupation de l'école, mais encore faut-il que les bases puissent être construites en même temps que l'intelligence et la capacité d'émancipation pour devenir responsables et exercer des responsabilités dans la société et pas être des robots, des valets juste capables de s'inscrire dans des procédures mécaniques.
Une espèce de complot. Est-ce que je voulais vous dire une chose?
J'ai aimé. Alors, vous n'avez plus que 15 secondes, Marc.
Pour montrer ce qu'on pouvait faire dans une classe qui travaille honnêtement.
Est-ce que M. Lebrun peut dire ce qu'il pense de la suppression de la formation professionnelle?
Non, j'ai pas le temps. J'ai mis tous mes cours sur un site qui s'appelle marc.le.brice.free.fr où vous trouverez le déroulement d'un CE1, CE2 et le déroulement d'un CM1, CE2.
Je suis désolé d'abréger parce que c'est un véritable débat de société. Merci beaucoup à Pierre Fracoviac, nous y sommes tous sensibles, et à Marc Lebris. Merci à Nathalie Goutal, Lise Lafargue, Hélène Ruderman, Thierry Dupin pour cette semaine et à tous les techniciens qui nous ont suivis. Lundi prochain, le sport est-il politique? Et puis j'ai oublié de vous dire, le dernier sondage, 46,6 non, 41,8 pour. Apparemment, il y a eu un petit pour de plus avec Marc Lebris, on ne sait pas.